Oui, est-ce que ce que nous faisons le dimanche, vous le savez, ce que nous essayons de faire le dimanche, je ne me rappelle pas très bien où est-ce que nous en étions arrivés la dernière fois. Je ne me rappelle plus très bien, mais je crois qu'en tout cas, m'a rappelé que ce que nous voudrions voir cette année le dimanche, c'est essayer de trouver les sacrements. Ce que les sacrements, comment les sacrements viennent, comment à travers les sacrements Jésus parle à notre corps. Les sacrements, c'est un espèce de moyen. Il faut voir ce qu'est la différence entre les moyens et la fin. Les sacrements, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Notre but, c'est pas l'Eucharistie, c'est pas du tout notre but. Notre but, c'est pas la confession. Notre but, c'est pas le baptême. C'est pas un but, ce sont des moyens. C'est exactement comme le téléphone. Le téléphone, ce n'est qu'un moyen. La baignoire, ce n'est qu'un moyen. Le savon aussi. C'est pas une fin en soi. Les cosmétiques, ce n'est pas un... C'est un moyen, c'est une fin. C'est pas une fin. Et les sacrements, c'est quelque chose comme ça. J'aime beaucoup l'histoire du téléphone. Les sacrements, c'est un téléphone. Le père Emmanuel, il disait toujours, les sacrements, c'est un rayon laser. C'est un instrument particulier. C'est comme un rayon laser qui traverse l'espace et le temps. C'est un moyen, hein, c'est un moyen qui nous permet d'être en communication, d'entendre. C'est un espèce d'instrument qui permet au Christ de venir en nous et nous parler et d'agir sur nous. Oui.
L'Eucharistie est peut-être un peu plus spéciale, hein, parce que c'est la présence de Jésus.
Oui. Tout à fait. Exactement, oui, tout à fait.
Les autres sacrements.
Alors, il se trouve que le téléphone particulier de l'Eucharistie, par exemple, est un téléphone tellement particulier, justement, c'est un. Que non seulement il nous transmet la voix, mais il se trouve que pour Dieu, la voix et la présence réelle, c'est la même chose. C'est ce qui est particulier à Dieu, c'est que l'être de Dieu et la vie de Dieu, c'est exactement la même chose. Tandis que pour nous, l'être et la vie, c'est pas la même chose. Le fait que j'existe et le fait que j'ai une vie intérieure, c'est pas la même chose. C'est pour Dieu, l'être de Dieu. Et sa vie, c'est la même chose. Pour Dieu, par exemple, à chaque fois qu'il regarde, qu'il contemple, quand une des personnes divines, par exemple, quand Dieu se contemple lui-même, c'est une activité qu'il fait. C'est un acte. Eh bien, l'acte de Dieu et l'être de Dieu, c'est la même chose. Tandis que moi, quand j'écris au tableau, je fais un acte, mon acte et le fait que j'existe, ça n'a rien à voir. Si vous dites, il écrit au tableau, c'est exactement la même chose que... Non, c'est pas la même chose. La personne du père Anatole, c'est autre chose que l'acte qu'il fait. Je fais quand même une distinction entre l'acte que je fais et ce que je suis. Parce que pour Dieu, l'acte qu'il fait et son être, c'est la même chose. Donc à chaque fois que tu touches en Dieu un acte qu'il fait, touche son être, c'est la même chose. C'est pour ça que quand tu touches ce fait que Jésus nous parle, tu touches Dieu lui-même. C'est très extraordinaire. Nous, on n'est pas fabriqué comme ça. Mais Dieu est fabriqué comme ça. Enfin, il n'est pas fabriqué, justement. C'est pour ça que les sacrements sont une communication, ont quelque chose de très extraordinaire, de très important pour nous, et communiquent une présence réelle. C'est pour ça que tous ceux qui disent « Mon Dieu, les sacrements, ce n'est qu'une présence symbolique. » Ceux qui ne comprennent rien à ce que Dieu est. Parce que si il y a une différence entre Dieu dans l'opération qu'il fait, l'acte qu'il fait. Il fait par exemple un acte d'amour. Eh bien cet acte d'amour, il est éternel. Et cet acte d'amour, c'est lui-même parce qu'il est amour. Et que son amour est substantiel. Et que c'est ça Dieu. L'acte et l'être de Dieu. une opération de Dieu et son être, c'est la même chose. Pour nous, ce n'est pas le cas. Vous le savez bien, parce qu'à chaque fois que je fais un geste sur quelqu'un, que je donne une parole à quelqu'un, que j'écoute quelqu'un, ça n'a rien à voir, ça n'épuise pas tout mon être. C'est accidentel. Tandis qu'en Dieu, ses actes épuisent toute sa substance. C'est pour ça que l'Eucharistie, ce n'est pas une trans-accidentalisation, c'est une trans-substantiation. Là, j'ai trouvé un truc super. Ouais. C'est pas une trans-accidentation, c'est une trans-substantiation. Là, ce que je crois qu'il serait beau, et c'est ça le problème, c'est trouver dans l'écriture, la Bible, cette odeur du sacrement. Quand Dieu fait un acte, c'est son être qui est là. Vous voyez bien, dans l'écriture, c'est comme ça, Dieu agit, on voit Dieu agir dans la Bible. Et dans les sacrements, on voit la présence réelle, l'être, la substance de Dieu. Et la substance de Dieu, c'est sa manière d'agir. C'est l'inverse des sacrements, oui. Vous avez l'aller et le retour. La Bible, les gestes de Dieu, c'est sa substance qui nous est donnée. À travers un geste de Dieu, je reçois sa substance. Et l'Eucharistie, c'est à travers sa substance, je rentre dans son geste intérieur, dans son acte. Et l'être et, l'acte, c'est la même chose. Donc, en lisant la Bible, l'être et la vie, c'est la même chose pour Dieu. Donc, en lisant l'Écriture, on retrouve cette odeur du sacrement. Au lieu de regarder le côté droit, on voit le côté gauche, c'est tout. Mais c'est le même visage. Ça permet de voir les choses en relief. Alors, peut-être à travers la Bible, sentir cette manière de Dieu extraordinaire d'être présent. Et c'est pour ça que lire, vous verrez bien, par exemple, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je tiens à vous dire que je n'ai pas spécialement préparé notre histoire de cet après-midi. Hein. Vous savez que je suis un gros paresseux. J'ai pas préparé, il n'y a pas mon texte avec les 10 pages de conte que je vous lis, non, c'est pas ça. Mais je crois que c'est bien de lire quelques petits passages comme ça au hasard. Au hasard. C'est pour vous. N'importe, c'est pas. Je prends chapitre 8 de l'épître aux Romains, Zaz. Tout à l'heure, je vais prendre d'autres hasards. Mais notre recherche, un petit peu, lire la Bible. De toute façon, tous les actes, à chaque fois que Dieu donne une parole, tout son acte est épuisé à travers cette parole. Et tout son être nous est donné. L'acte de Dieu et son être, ça, c'est quelque chose qu'on sait par la connaissance de sagesse, que la vie et l'être de Dieu sont la même chose, qu'une opération divine et son être c'est la même chose, mais de là à le comprendre parfaitement, hein, c'est difficile, on le sait. Mais il faut rentrer dans l'odeur de ce que ça représente. C'est ce que je voudrais qu'on arrive à faire. Il n'y a plus actuellement de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont actuellement dans le Christ Jésus. Car la loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. T'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit qui est dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est quoi cette histoire de loi? Vous savez bien que la loi, cette exigence d'amour de Dieu et du prochain, l'exigence d'amour de Dieu et du prochain, qui est dans le Christ Jésus, t'a libéré de l'exigence de Dieu, de la loi du péché et de la loi du péché et de la mort, donc de l'exigence des actes accidentels qui sont précisément ceux qui nous mènent dans l'expérience du péché et dans l'expérience de la mort. Nous avons vu, si vous voulez, dans notre vie humaine, une expérience de limite et une expérience de brisure. Et nous avons cette soif d'amour au milieu de tout ça. C'est ça, la loi du péché de la mort. On est dans une soif d'amour et en même temps, on est dans une expérience de limite et de brisure et de faille. C'est ça, la loi du péché de la mort. Et du coup, on meurt. Et bien, cette loi-là, j'allais dire, on en est libéré grâce à cette soif d'amour qui est dans le cœur de Jésus. Et qui pénètre justement dans notre soif d'amour qui est dans la faille. Et ça, c'est un acte de Dieu. C'est un acte de Dieu, c'est le fruit de tous les sacrements. Tous les sacrements font ça. Et vous pouvez lire n'importe quel passage de la Bible, au hasard. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est une définition des sacrements. Allez bien. On peut continuer, mais il faut apprendre ça. C'est l'action de Dieu et la présence réelle et son fruit, c'est la même chose. Et ça nous est révélé par la Bible, dans cette structure profonde. C'est facile, je crois. Alors, on est lourdingue, si vous voulez, on est très très lourd, on a beaucoup de mal, on a plein de failles. Si. Alors à ce moment-là, heureusement, il y a cette soif d'amour au milieu de la faille, au milieu de la... On se dit, mais c'est pas possible. Et c'est dans cette loi-là que la loi de l'esprit qui est dans le Christ Jésus vient pour nous donner la liberté divine. Magnifique, c'est magnifique. Chaque verset est une splendeur dans l'Écriture, vous savez. On peut continuer. De fait, chose impossible... à cette soif, la loi, donc l'exigence d'amour absolu dans l'amour du prochain. C'est ça la loi, vous savez, la Torah, c'est ça. Quand vous dites la loi dans l'écriture, c'est vrai, quelquefois je reconnais que quand on lit la Bible, on dit, bon, Dieu, est-ce qu'il sert ça de Patrick, hein, évidemment. Quand je vois la loi, je dis, bon, ben, tiens, je dis la loi de l'avocat, et hein, les décrets, les machins. Hein. La loi. Non, mais la loi, c'est la Torah. Quand saint Paul parle de la loi, il parle de la Torah. La Torah, c'est une des six choses qui sont à l'intérieur du Bereshit dans la Genèse. Vous savez ça, vous finirez par le savoir par cœur. J'espère. Bon, dans le Bereshit, il y a six choses. Avant l'acte créateur de Dieu. Au commencement, Dieu, Bereshit, au commencement. Bereshit, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, Dieu créa le ciel et la terre, Bereshit, au commencement, Bara créa, Elohim, Dieu créa, Hatashamayim, donc le ciel et la terre. Bon. Alors, avant créa, avant Bara, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant qu'il y ait l'acte créateur de Dieu, il y a le Bereshit. Dans le principe, au commencement. Qu'est-ce qu'il y a avant l'acte créateur de Dieu? Eh bien, il y a six choses. Ça, c'est ce que disent, c'est le commentaire de la tradition de Moïse. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est la tradition de Moïse. Dans le Bereshit, il y a six choses, et parmi les six choses, il y a la Torah. Et la Torah, c'est l'exigence d'amour de Dieu et du prochain en un seul acte. Ça, c'est ce que dit l'épître de Saint Jean, en toutes lettres le commandement qui nous a été donné dès le Bereshit, dès le principe. L'existence d'amour de Dieu et du prochain en un seul acte. Qui est avant la créature de Dieu. C'est quand même extraordinaire ça. Eh bien c'est cette exigence qui enveloppe, qui est un peu la matière première de la création, la matière première de la création. Exigence d'amour de Dieu et du prochain dans un seul acte. C'est de ça que ça parle, hein. Pardon ? Ah oui, mais dans la pensée de Dieu, le prochain existe dans la pensée de Dieu. Ils sont trois en un. C'est l'exigence de l'amour de Dieu et du prochain avant qu'il y ait des créatures limitées, n'est-ce pas ? Alors, il se trouve que l'amour de Dieu et du prochain, en Dieu, elle existe quelque part, cette exigence de l'amour de Dieu et du prochain, puisqu'ils sont trois et un. Il y a un seul Dieu, parce qu'il y a un seul être divin, et il y a trois personnes. Donc, il y a le prochain, personne, et il y a une unicité de l'être. Donc, il y a une exigence incréée, éternelle, d'amour de Dieu, hein, et du prochain, les deux qui sont pas moi. La clarté même, hein. C'est ça. Et c'est un seul acte parce que la vie et l'être sont une, c'est la même chose en Dieu. Donc dès que vous avez le mot Torah, vous avez exactement la même chose que chapitre 8, verset 1, 2, 3, que nous venons de lire. Ça veut dire la même chose. Et c'est la même chose que ce que nous avons dans les sacrements. C'est extraordinaire parce que si la vie et l'être de Dieu, c'est la même chose. Dès qu'il fait une opération vitale, elle épuise toute la vie divine. Et une seule parole de Dieu, avec une seule parole de Dieu, si je la reçois personnellement et substantiellement, expérimentalement, jusque dans ma racine à moi, de mon être, à moi, à ce moment-là, j'ai Dieu tout entier. C'est ce que fait l'acte de Dieu. Mais la substance de Dieu que je reçois dans les sacrements, présence substantielle, présence réelle, fait la même chose, elle me permet de rentrer dans l'acte intime de Dieu, qui est l'acte qui permet qu'il y ait trois dieux, trois personnes et un seul Dieu. C'est aller-retour extraordinaire de la révélation des sacrements. C'est comprendre que ce n'est pas symbolique. Et c'est ça, je crois, le fruit des sacrements. C'est pour ça que c'est si extraordinaire de lire l'écriture, enfin la théologie biblique, théologie intérieure, mystique, les sacrements à partir de la mendication vitale de l'écriture, théologie mystique, biblique, quelque chose de très beau, très grand. Oui.
Vous avez dit que pour les protestants, la présence n'était pas substantielle, n'était pas réelle.
Oui.
Et vous dites qu'on peut obtenir cette révélation en lisant la Bible, en étudiant la Bible.
Oui.
Alors, si on va étudier la théologie à la faculté de théologie protestante de Montpellier, parce qu'on n'a pas la version protestante.
Oui. Alors, bon, un jour, il faudra qu'on en vienne là, et c'est mon ambition pour l'année prochaine, figurez-vous. Mon ambition pour l'année prochaine, le dimanche, c'est de regarder comment on lit la Bible et quels sont tous les modes d'interprétation de l'Écriture sainte. Et on regardera ça. Comment, par exemple, on ne peut pas lire la parole de Dieu comme on lit un livre de Shakespeare. C'est impossible. C'est pas la même chose. C'est pas le même auteur. C'est pas le même mode. C'est pas la même. C'est pas le même moyen. C'est pas la même fin. Bon, alors, il y a quelquefois les mêmes mots. Ça, c'est matériel. Et Jésus le dit bien. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Jésus lui-même, il dit, attention, on ne lit pas de la même manière. Alors, Moïse, lui, il a enseigné tous les différents sens. C'est pas la matière de la parole de Dieu qui compte, c'est son sens, sa finalité. Son sens. Donc, sa finalité, sa fin, son fruit qui compte. C'est pour ça que c'est l'Esprit Saint qui est la fin de tout, même dans la très sainte Trinité, qui est l'auteur de la matière des Écritures. Et c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs sens, parce que la matière
elle est corrélative au Verbe de Dieu qui a pris chair, qui est rentré dans la création, et vous savez bien que la création a ses aspects de quatre. Il y a quatre dans la création. C'est pour ça qu'il va y avoir quatre sens dans l'écriture, les sens allégoriques, sens mystiques, sens anagogiques, sens symboliques. Mais on verra ça un jour, comment Moïse le dit, comment la tradition juive le dit, et puis comment, avec le Nouveau Testament, on dit encore pareil, mais d'une manière différente, qui prolonge. C'est une de mes ambitions, n'est-ce pas? Parce que c'est traditionnel, c'est archi-classique, ça. Et en plus, c'est très intéressant. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ici, le dimanche, tout le temps, c'est toujours le sens mystique. Le sens mystique, pour qu'il y ait un sens mystique, il faut qu'on puisse saisir l'Esprit Saint sous les paroles de Dieu, vivre de l'Esprit Saint, découvrir l'Esprit Saint comme auteur principal de ses paroles. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père, du prochain, du Père et du Fils. C'est ça, l'Esprit Saint. Et l'amour de Dieu dans un seul acte. C'est l'unité de l'être et de la vie dans l'amour de Dieu. Mais de manière vivante pour nous. Alors à ce moment-là, on lit, on rentre, et puis on laisse l'Esprit Saint se dire lui-même à travers la parole de Dieu. Très difficile d'expliquer tout ça. Mais il faut évidemment qu'on soit dans un état d'adoration, de contemplation, d'union à l'Esprit Saint, et qu'il y ait cette abondance de l'Esprit Saint. Qui vient de vivifier dans la création, ainsi qu'en même temps dans notre temps, la parole surnaturelle révélée de Dieu, l'Écriture. Oui, allez, on va prendre un autre passage. Exercice de, pas du tout d'équilibrisme que je fais, parce que j'aime bien faire ça. Et de temps en temps, il faut le faire parce que Dieu nous parle. Hein. Ça, tu prends au hasard, poum. Fait. Ah, celui que vous voulez. Vous ouvrez, vous me dites hein, celui que vous voulez. Alors, je prends un autre passage. Mais les épîtres sont des choses formidables. Je prends l'épître aux Philippiens. Allez, bien en avant. Verset 3, chapitre 1. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. Tous les sacrements, c'est ça. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. En tout temps, dans toutes mes prières pour vous tous, prières que je fais avec joie. Résumé, sacrement de l'Eucharistie. Je rends grâce, Eucharistie, action de grâce. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Hein. Quand je fais mémoire pour vous, mémorial, faites ceci en mémorial de moi. En tout temps, dans toutes mes prières. La prière, comme dit l'Écriture, c'est l'offrande, c'est le sacrifice de tout, c'est l'holocauste. C'est la fumée qui monte de l'encens, c'est la fumée qui monte de la terre. La prière monte, c'est un sacrifice. Le sacrement est pour toute l'Église, pour le corps mystique. Mes prières pour vous tous, prières que je fais avec joie. Sacrement de la joie, sacrement de l'unité, sacrement de la charité fraternelle, dans ce terme, la joie, de l'unité du corps mystique tout entier, c'est ça la joie. La joie dans l'Écriture, c'est Jérusalem céleste, c'est l'unité de tout le corps mystique. Pour ceux qui nous ont fait sur le sacrement de l'Eucharistie, vous voyez, vous avez les cinq éléments, qui sont les cinq fruits de l'Eucharistie, qui sont tous là, n'est-ce pas? Mais je pourrais le faire en point. Bon, ça c'est immédiat, bon, mais on peut continuer et c'est très beau. Car, parce que, ça c'est un fait maintenant, parce que, je me rappelle la participation que vous avez prise à la Haggadah, c'est-à-dire, la Haggadah c'est l'évangile, à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. L'Eucharistie est un repas. J'y participe. Et la bonne nouvelle, vous savez bien ce que c'est que la bonne nouvelle, c'est que l'inspiration qui est en Dieu, l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu, nous est communiquée à nous tout entier, pour que nous en soyons entièrement inspirés. C'est la Haggadah, l'Évangile, la bonne nouvelle. Et elle épuise tous les temps, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le jour des origines avant la création du monde, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'instant présent. Les origines de la création du monde, c'est là où Dieu a donné son commencement au temps et au monde spatio-temporel et à l'être de toutes choses. Et l'instant présent, c'est là où son éternité vient toucher le temps. Et ça, c'est l'Eucharistie. C'est la jonction du temps et de l'éternité. C'est quand le temps est transplanté dans l'éternité, quand l'éternité est transplantée là dans le temps. C'est l'instant présent et toutes les origines. Et oui, j'en suis celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente. L'Eucharistie est un commencement. L'Eucharistie est un pèlerinage. L'Eucharistie est un moyen pour ceux qui sont en pèlerinage et qui veulent bien commencer à vivre la vie éternelle. Il n'y aura plus de sacrements au ciel parce qu'on ne sera plus dans le temps, on ne sera plus en pèlerinage. Les sacrements sont pour ceux qui sont in via, en pèlerinage. Et qui ont accepté de commencer, oui j'en suis sûr d'ailleurs, celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en poursuivra l'accomplissement. Jusqu'au jour du Christ Jésus. C'est jusqu'au retour du Christ. Ça nous met en lien avec le Christ dans son retour, fruit du sacrement. Allez, on va trouver un autre passage. On va trouver un autre passage tout simple, vous savez. Ah, je ne sais pas où. Allez, Épître aux Hébreux, chapitre 12. Voilà pourquoi. Vois. Regarde. Là.
Quel verset?
Chapitre 12, verset 1. Vois. Là. Attention, tout à l'heure c'était le temps, maintenant c'est le lieu. Hein? Regarde. Là. Pourquoi? La finalité. C'est l'Esprit Saint qui parle. Hein? Pourquoi? C'est la finalité. Rien que ça, vous savez ce que c'est qu'un sacrement. Voilà le pourquoi de tout. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi nous aussi, il n'y a pas que Dieu, on est dans. Nous aussi, on est Dieu, avec Dieu, tout en restant homme, tandis que Dieu est Dieu, tout en restant l'être. Voilà pourquoi, voilà. La finalité en quoi nous aussi, participation à la vie divine, c'est quelque chose de très puissant, vous savez. Enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, chaque sacrement nous met dans le corps mystique et on est enveloppés. Nuée, très difficile à traduire en français, hein, nuée. Nuée, c'est... La nuée, c'est... C'est très lié à ce final, ça. Présence sensible, présence sensible et glorieuse. Une présence sensible et glorieuse, impossible à dénombrer. C'est ça la nuée. De témoin. Voilà. voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande Shekhina, le témoin, le martyrior, le témoin c'est martyr, le témoin c'est martyr, une si grande Shekhina de martyrior, extraordinaire, martyr, c'est, au lieu que le sang soit en nous, le sang est partout dehors. Ça, les martyrs. Parce que c'est le sang du Christ, comprenez. Et du coup, notre sang est partout dehors. Dans cette nuée impossible à dénombrer. C'est notre sang, et il est dans l'église de Jésus. Dans le corps mystique de Jésus. Tout ce qui nous arrive à nous, on s'en fout, mais complètement. C'est ça que fait un sacrement. On s'en fout complètement. Complètement. Et c'est notre sang, parce qu'on a donné notre sang à Jésus, et c'est ça, le martyr. On donne notre vie à Jésus, et du coup, notre sang circule dans toute l'église. Oh, je me rappelle quand j'étais au noviciat, c'est ça, à Fribourg, chez Petit Gris. Ah, il y avait une petite récré, puis. Et puis il y avait quelqu'un, c'est toujours un peu plus dans l'institution, dans les noviciats. Même quand c'est des gens intello, machin. Et ouais, il y a Saint-Thérèse d'Enfant Jésus qui disait, ah moi dans l'église je serai l'amour. Dans l'église je serai l'amour. Ah oui, parce que dans le corps mystique de Jésus, il faut être quelque chose, il faut être le cœur, ou les mains, ou les yeux. Alors, il y avait un frère qui s'adresse au maître des études, qui s'appelle Père Maria là. Davoud Auerstedt, c'est un descendant, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui avait été, qui faisait partie de la famille Corse de Napoléon, n'est-ce pas? Et qui avait du coup été ennobli par Napoléon, et s'était fait appeler Davoud Auerstedt, le général Davoud.
Davoud avant d'être reçu, hein? Ouais. Il n'était pas Corse, hein?
Je comprends.
Il n'était pas Corse du tout.
Ah bon, non, heureusement, bon. Ils étaient grossiers comme les Corses, n'est-ce pas? Mais ils étaient raffinés comme les Français. Alors. Non, bien entendu, oui. Ah ben, oui. Moi aussi, je les connais, Geneviève. Alors, bref, peu importe. Marie-Alain, c'était le maître des études, vous comprenez? Maître des études.
Le frère Marie-Alain, alors, c'est celui qui est en
guinée. Oui, mon petit, oui. Et on pose la question à Marie-Alain, si, voilà. Il y en a un frère très, très futé, n'est-ce pas? Je ne dirais pas c'est qui, quand même. qui dit au Père Maria, là, et toi, t'es dans le corps mystique, tu voudrais être quoi? Alors, mettre des études, je dis, bon, bah, dis-moi dans le corps. Et il a répondu du tac au tac, dis-moi dans le corps mystique, là, chacun de nos frères est tout entier le meilleur de tous. Mais lui, c'est sûrement exact. Et alors, il a dit, je vais serrer les yeux, parce que je voudrais voir tout ce que le corps mystique voit. Voir tout ce que Dieu voit. Mettre des études, pour devenir contemplatif, vous comprenez? Pour contempler. C'est ça, les études. C'est une théologie, c'est pour connaître et voir Dieu, la théologie et la philosophie. Ah, et moi, je veux être des yeux. C'est joli, hein? Je ne sais pas ce que vous auriez répondu. Alors, on pose la question aux uns aux autres. Et on...
Vous aviez dit.
Devinez. Devinez. C'est moi qui ai donné qu'on a interrogé en dernier, parce que toujours, tu comprends, il vaut mieux garder la dernière part.
Alors, dernière part.
J'avais le choix entre l'ongle du bas orteil, le système pileux du sous de bras, vraiment, je ne savais pas très bien. Alors j'ai dit, bon, il me reste vraiment les petites portions, les miettes qui sont de la table. Alors je dis, moi, dans l'église, je serai le sang qui circule, parce que au moins, il est dans l'amour, il est dans le cœur, il est dans les yeux, il est dans la tête, il est dans tout le corps, et il est dans l'âme. Le martyr, c'est ça. C'est quelqu'un qui donne toute sa vie de manière qu'il est le sang de l'Église, le sang de Jésus. Il a donné toute sa vie, et donc c'est comme Jésus. Parce que Jésus, c'est le sang du Père. C'est pour ça qu'il a changé le vin, qui a surabondance de l'amour, en sang. Vous savez, quand il dit que je change le vin, surabondance de l'amour, ivresse de l'amour, en sang, c'est un symbole du mystère de l'incarnation. Tu ne peux pas avoir d'ivresse. L'ivresse, ce n'est pas au niveau du cœur, de la volonté, c'est au niveau de l'intelligence. L'ivresse d'amour, c'est le verbe de Dieu. C'est le tourment d'amour, de la contemplation incréée, perpétuelle du Père. Cette ivresse d'amour est changée en sang. Et l'incarnation est immédiatement le Verbe de Dieu qui prend sa chair, qui prend cette incarnation et qui est broyé immédiatement, et ça éclabousse tout l'univers pour purifier, pour laver, pour transformer, pour transsubstancier, pour transactualiser, transfinaliser, transglorifier, l'assumer, l'assomption. Et immédiatement, dès qu'il s'incarne, c'est le sang. Il a donné son sang pour nous. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande Shekhina Marturioi, nous devons rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous assiège, et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Nous devons donc rejeter tout fardeau. Dans le sacrement nous libère de tous les poids qui ne sont pas le poids. Avec le poids, c'est Dieu, dans son amour. Plus vous avez de l'amour, plus vous avez du poids. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin en parlant de la procession du Saint-Esprit. Quand Dieu procède, vous connaissez cette histoire de poids, j'espère quand même. Cette Geneviève, on comprend pourquoi elle a sauvé Paris. La cabode. La cabode, le poids. Cabode, le poids de gloire, le poids de Dieu. Dieu est au milieu de nous, regardez bien, c'est le poids. Son amour est si fort qu'il s'incarne, qu'il est là tout le temps. Je me tourne vers lui, poids, cabode de Dieu. Poids d'amour de Dieu. Écrasant. Il écrase tout. Vous connaissez l'histoire? Non. Cavote, bon. C'est fantastique, ça, ça. Le poids. Et saint Thomas d'Aquin, en grec, le pondous, n'est-ce pas? Saint Thomas d'Aquin, il nous explique que en Dieu, quand Dieu se contemple lui-même, il engendre en lui le tourbillon d'amour du Verbe de Dieu, ivresse d'amour. L'ivresse de l'amour, le vin, n'est-ce pas? Des noces, des époux et épouses, n'est-ce pas? Il engendre ça, il engendre le Verbe de Dieu, c'est la première procession, procession dans la lumière, qui se termine à l'amour, dans l'ivresse contemplative. Et de cette unité, ce tourbillon qui fait l'unité d'amour du l'époux et de l'épouse, du père et du fils, une seconde procession apparaît. Une seconde procession, ça c'est le grand symbole du mystère de la croix, hein. Première procession, deuxième procession. Et on est au cœur de Dieu, dans l'être et la vie divine. À la rencontre de ces deux processions, c'est une procession, du coup il y a un poids en Dieu qui s'empare de tout. C'est le poids d'amour. Et cette procession numéro 2 par mode de poids se termine, enfin, à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est le terme final de la seconde procession par mode de pouvoir, mon Dieu. L'ivresse, c'est la légèreté et l'amour, c'est le pouvoir, c'est extraordinaire. C'est la cavote, une espèce de traduction de la cavote en hébreu. Il suffit de dire cavote et on comprend tout ce que je viens de vous dire en 7 ou 8 phrases. Si on dit cavote, tout de suite vous pigez. C'est extraordinaire en hébreu. Je ne vais pas vous faire la décomposition. Alors voyez, nous devons rejeter tout poids. Ce poids qui n'est pas le poids divin. Si ce n'est pas l'Esprit Saint que tu portes, eh ben tu portes un poids. C'est tout. C'est pour ça que les moines, ils se mettent un habit, les carmes par exemple savent très bien, ceux qui connaissent les carmes, que quand ils mettent l'habit, la tunique, on leur met, vous recevez la tunique, et en recevant la tunique, vous êtes enveloppé, vous portez tout, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint que vous portez. C'est voilà le fardeau que vous avez à porter. Et bien, du coup, tous les autres foutent le camp, évidemment. Il n'y a plus aucun poids. Ça rappelle tout le temps qu'on porte l'Esprit Saint. C'est très lourd. C'est plus lourd que des milliards d'univers. C'est ça qu'il y a que... Vous connaissez l'histoire de Saint-Christophe, n'est-ce pas? Saint-Christophe qui porte Jésus. C'est pour ça qu'il y a que Jésus qui peut porter ça en nous, n'est-ce pas? Oui, nous devons rejeter tout poids et le péché qui nous assiège. Hein, ça, c'est les assauts. Et les sacrements nous libèrent de ça à cause du poids d'amour de l'Esprit Saint. Ou bien on est assiégé parce qu'on vit la présence réelle de l'ivresse du Christ dans son sang. Et dès qu'il y a l'ivresse du Christ dans son sang, quelle est l'ivresse du Christ? L'ivresse du Christ dans le vin, c'est le Père et le Fils. L'ivresse du Christ dans son sang, c'est l'incarnation, c'est l'époux et l'épouse. Donc, cet amour fou que Jésus a pour l'Église, cet amour fou que Jésus a pour l'Immaculée, c'est le mystère de l'Assomption qui est derrière. Et dès que Marie et Jésus sont là dans une seule chair glorieuse, l'Esprit Saint se précipite et monte à l'assaut. Si on ne vit pas le mystère de Marie-Reine, de l'Assomption, l'Esprit Saint ne monte pas à l'assaut partout. Il y a le mystère de l'Assomption dans notre sang, dans notre corps. Aussitôt l'Esprit Saint apparaît. Croyez pas qu'il y ait quelconque poids à ce moment-là, qu'il y ait d'autres poids que celui de l'amour de Dieu et du prochain en un seul acte. Voilà le fruit du sacrement. Oui, d'une si grande nuée, nous devons rejeter tout poids, tout fardeau et le péché qui nous assiège. Et du coup, courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Tous les sacrements donnent la force pour courir. Tu as des fardeaux en général, et ben, pour courir, plutôt tu rampes, n'est-ce pas? Non. Tu te mets à genoux et t'écrases. C'est bien. Alors tu adores. L'avantage, quand on est écrasé, on peut adorer. Très gros avantage. Il ne faut jamais supplier quand on est écrasé. Il faut adorer. Dire, je suis écrasé, quel bonheur. Écrasé. Je suis prosterné. Et je reste là et je ne fais jamais des actes d'adoration aussi forts que quand je suis écrasé. Surtout si mon corps le marque, si ça va. Si je me réfonds jusque dans mon corps. Faut pas supplier quand on est écrasé. Quand est-ce que je vais m'en sortir? Je t'en supplie, sors-moi de là, mon Dieu, etc. Faut pas être idiot. Il donne une grâce d'adoration et il va t'en sortir, mais ça va pas, non? Profite de l'instant présent. Il faut avoir une méconnaissance de Dieu. Il donne une grâce d'adoration dans l'acte d'adoration. Dans l'acte d'adoration, tu atteins tous ceux qui sont créés par Dieu et qui ont soif de la révélation des fils de Dieu. Alors tu adores, je l'ai écrasé, j'ai écrasé, quel bonheur, quelle joie. Enfin, je peux vivre de l'amour de Dieu et de tout ce qui m'entoure, tout ce qui existe dans un seul acte. Je suis écrasé, prosterné, plus que suspendu. On attend Dieu, on attend là. Ah oui, mais j'ai ma vaisselle à faire, il faut que je passe ma serpillière, il faut que je réponde au coup de téléphone. Non, reste là, mon pote. Reste là. Une heure, deux heures. Le chien aboie, le chien aboie, la caravane passe. Écrasé. Jamais tu auras fait un acte d'adoration aussi extraordinaire, catholique, universel, fécond. Jamais. C'est une grâce, ça. Mais ne supplie pas d'en sortir, c'est ridicule. Tu as été créé pour ça, pour adorer. Alors, ne va pas chercher autre chose. On adore le Saint-Sacrement. On adore Jésus dans sa présence réelle. C'est lui qui adore en esprit, en vérité. Le Père. Et le Père veut des adorateurs en esprit, en vérité. Et on n'échappe pas à l'adoration en disant je veux servir Dieu dans l'allégresse. Tu ne te serviras que toi-même à ce moment-là. Et tu te trompes de Dieu. Le péché qui nous assiège est courir avec constance. Constance. Oui, c'est bien, ces mots-là sont des mots d'une importance, vous savez. La constance. Constance. S'arrêter. Se tenir debout. Ah, position écrasée, c'est pas mal, hein. Tu es écrasé et d'un seul coup, en étant écrasé, c'est là que tu es debout. Oui, passage de la mort, la résurrection, l'instant. Et comme c'est avec, hein, c'est l'aspect de la solidarité. Là, tu es debout. Le mot constance est dans l'Écriture, et notamment dans le Nouveau Testament, dès qu'il y a une allusion à la femme. Elle est debout. Au pied de la croix. Stabat mater. Stabat. Staré. Stabat mater. Mater, c'est celle qui rassemble tous. On est communautairement rassemblés dans le stabat, dans le debout de la femme. La constance. La constance, au pied de la croix, Marie est debout. Stabat mater. Et elle rassemble tous les pécheurs dans l'océan immaculé du salut. C'est-à-dire sa plénitude de grâce qu'elle reçoit pour le donner à tous les autres, à tous ceux qui ont besoin de ce salut. On est tous rassemblés et debout. C'est extraordinaire, l'océan, cette mer de cristal qui reçoit tout le vin des noces et tout le sang du Rédempteur. Et du coup, elle rassemble tous les éléments d'en haut et tous les éléments d'en bas. Elle rassemble tous les éléments d'en haut et tous les éléments d'en bas. Ce que dit Saint-Hildegarde, la femme qui est debout est capable de mouvoir les éléments d'en haut et les éléments d'en bas. Dans la constance. Et cette constance, elle est dans, à l'intérieur du Christ Jésus, qui est notre soleil. Extraordinaire. Dès que je suis debout, dès que je fais ce que l'Immaculée a, écrasé par le mystère de la compassion, broyé, rassemblant toutes les plaies en une seule plaie immaculée, à ce moment-là, cette plaie, elle est dans la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, soleil du Père, soleil, le vent qui vient nous visiter, astre d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui existe dans l'ombre de la mort, guide pour nos pas au chemin de la paix. Ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de la confession, c'est le sacrement du baptême, c'est le sacrement de l'unité sponsale, c'est le sacrement du guérison des malades. C'est tous les sacrements qui font ça réellement, vitalement, absolument, efficacement, par elles-mêmes, par une efficacité qui est propre, substantiellement, actuellement, formellement. Catholiquement, universellement, solidairement, avec l'Immaculée. Tous les
les sacrements, c'est comme ça. On est debout, là, dans le mystère de compassion. Et courir avec constance l'épreuve. L'épreuve qui nous est proposée. Transfixion. Vous connaissez la transfixion, n'est-ce pas ? Fixant nos yeux. Ah, Père Marien, hein, qui débarque. Le général Davout de Varchel qui débarque. Fixant nos yeux sur le chef de notre foi. Qui la mène à sa perfection. Cette constance est menée à sa perfection. Il suffit de fixer. Vous voyez, je vis ça avec l'Immaculé. Nous fixons, l'Immaculé et moi, nos yeux sur le chef de notre foi. Le Christ Jésus. Qui mène notre course à son terme. Il complète tout ce qu'on ne peut pas faire. Tout. Et à l'infini. Et jusqu'à la substance. Ça, c'est les sacrements qui font ça. C'est uniquement par les sacrements que j'épuise tout ce que Dieu peut faire en tant que Dieu dans la création. Le pouvoir de la toute-puissance créatrice de Dieu m'est donné à moi. Passe par moi grâce au sacrement. Le sacrement, c'est une... Le fruit des sacrements, faut saisir. Faut saisir qu'à quel point l'écriture, c'est normal puisque c'est l'aller et le retour, l'écriture, elle nous donne l'aspect final. Et on retourne, vous voyez, c'est normal ça. Fixant nos yeux sur le chef de notre foi. Qui la mène à sa perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix. Au lieu d'être dans la lumen gloriae, la lumière de gloire, l'ivresse glorieuse, la victoire d'amour, il endure une croix dont il méprisa l'infamie. Il en méprise l'infamie. C'est vrai, infamie. Chaque fois qu'on voit qu'on est dans le péché, qu'on est lamentable, qu'on est pauvre, qu'on a des pulsions de mort, des pulsions de toutes sortes, de dépression, je sais pas moi, qu'on est pauvre, quoi, qu'on est malade, qu'on est mort. Eh bien, bien regardez, si vous allez très très loin si vous, en plus, si vous êtes très fatigué, déprimé, il est bien évident que vous êtes extrêmement humilié. Cette humiliation, vous n'êtes pas très glorieux en tout cas. Et c'est infamant, ça vous donne pas une bonne réputation en tout cas. C'est justement accepter qu'on ait, au regard de soi-même et au regard d'autrui d'ailleurs, une mauvaise réputation. C'est ça que je suis associé. Et c'est parce qu'il sait que c'est à travers ça seulement qu'il y a cette possibilité d'être assis désormais à la droite du Père. Il endura, voyez ça, une croix dont il méprisa l'infamie. Et lorsqu'il y a ces maladies, ces faiblesses, ce contraire de la gloire, ce contraire de l'efficacité, ce contraire de tout, voyez. Alors à ce moment-là, cette espèce de déshonneur, je ne sais pas, parce qu'un déshonneur, ça ne va pas, hein, mais... Comment est-ce qu'on pourrait dire d'humiliation, ça ne va pas non plus. c'est pas humiliation, c'est pas déshonneur, cette espèce de honte substantielle, espèce de honte, on est honteux d'être comme ça. Je dirais plutôt ça, n'est-ce pas? Ouais, tant qu'on vit pas ça, je crois que c'est très très difficile d'être chrétien. Parce que c'est vraiment, c'est honteux, c'est vrai. Mais Jésus a voulu épouser cette honte et rentrer infamie, in, à l'intérieur. C'est ça, sa croix. Et bien, lorsqu'on vit cette honte, lorsqu'elle transpire, si vous voulez, je suis vraiment un pauvre homme, quoi. Et je suis honteux d'être ce que je suis, j'ose à peine me montrer. Quand je dis à peine, j'ose pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais tout un cinéma. Je préfère faire du théâtre. Hein? Je préfère un peu que ça ronfle. Et alors à ce moment-là, voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut mépriser cette honte. Si je veux rentrer dans la honte, dans l'infamie. Si je veux rentrer dans l'infamie pour être assis à la droite du Père, où Jésus est victorieux de tout, dans le point de vue de la gloire et de l'amour, il faut que je rentre à l'intérieur de la honte. Il ne faut pas que je porte cette honte sur moi. Et pour pouvoir le faire, il faut que je méprise profondément ce sentiment de honte. Alors Jésus est orgueilleux parce que Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix en méprisant l'infamie. Caille, c'est-à-dire qu'il est assis à la droite du Père. À partir du moment où il méprise cette infamie, en rentrant dedans, eh bien, ça veut dire qu'il est assis à la droite du Père. C'est pour ça qu'à partir du moment où Judas sort pour le trahir, il dit « Maintenant, je suis glorifié. » Parce que Judas le considère comme un imbécile. Et le Sanhédrin le considère comme un traître. Lui, Jésus, enfin dans cette infamie, parce qu'il la méprise en rentrant dans cette tête, en rentrant dedans, il s'assit à la droite du Père, c'est ça la glorification. La résurrection a commencé quand Judas a décidé de sortir. Par un acte d'imperium, pour rejoindre l'imperium du Sanhédrin. Aussitôt Jésus rentre dedans, dans cette infamie, mais en la méprisant. En méprisant ce caractère. Alors qu'il aurait pu faire par un seul acte, ça lui était proposé. À partir de là, tout transformé en joie. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il prend la famille, il rentre dedans et il la méprise. Aussitôt la glorification a lieu, la résurrection a commencé. La croix est glorieuse à partir du moment où Judas est là. Et Judas, c'est nous. Faut le sentir. Alors, songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction afin de ne pas défaillir par fatigue et lassitude de vos âmes. Il suffit simplement de contempler, songez à celui qui vit ça. Vous savez, c'est la différence qu'il y a entre contempler et songer. Vous fixez votre regard, avec les sacrements, vous fixez votre regard sur Jésus, le chef de notre foi. Ça, c'est contemplatif. Et songer, c'est pas pareil. Ce songe, c'est par la médiation de l'imaginaire. Donc, fixer votre regard par la foi, c'est votre regard, c'est un regard contemplatif, c'est votre intelligence. Tandis que si vous dites songer à Jésus qui est rentré dans l'infamie en la méprisant, et de cette manière, il siège à la droite du Père. Si vous songez, ça veut dire que cette fois-ci, c'est plus par la porte de l'intelligence contemplative, c'est par la porte de l'imagination. Essayez de vous le représenter, ça, quoi. Vous voyez bien que la contemplation permet à ce qui est autre que vous de pénétrer en vous. C'est la contemplation. Tandis que le songe, c'est à l'intérieur de vous, que, de l'intérieur de vous que jaillit le songe, n'est-ce pas ? Une vérité. Alors, tu te fabriques à toi-même une représentation de la réalité que tu as contemplée. Et songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction afin de ne pas défaillir. Si vous voulez finalement ne pas défaillir, vous avez deux moyens. Par lassitude et fatigue de vos âmes, vous avez deux moyens. Premier moyen, vous le savez, mépriser l'infamie. Voilà la manière spirituelle. Si je suis intelligent, il faut quand même que j'écarte tout ce qui est mauvaise réputation, tout ce qui est... Ouais. Trop dangereux, tout ça, c'est pas efficace. Humainement, oui. Divinement, non. Ça, c'est le point de vue spirituel. Mépriser profondément la honte. Je suis infâme, mais ça, je m'en fous, mais complètement. Je ne sais pas par ça quand je méprise et je rentre dedans. Parce que c'est là que je trouve et que je vois Jésus assis à la droite du Père. Qui c'est là qui s'est mis pour venir s'asseoir à la droite du Père dans son humanité sainte. C'est extraordinaire, je trouve. Et c'est d'une très grande puissance. C'est la manière spirituelle, la manière psychique d'accompagner ce mépris. C'est ça, ce qui est dit ici, songez. Représentez-vous à l'intérieur de vous-même, c'est la manière psychique, pour toute votre âme, grâce à l'imaginaire. Songez celui qui subit cette contradiction substantielle à travers la vôtre, qui n'est qu'accidentelle. Vous n'êtes qu'une transaccidentation du Christ. Tandis que l'Eucharistie, c'est une transsubstantiation de toutes les transaccidentations du temps et de l'espace. Et c'est ça la constance du Christ. Oui ? Sinon, si vous ne faites pas ça, ben, vous serez fatigué de la vie spirituelle au bout d'un certain temps. Il faut Jésus. Et nous, vous voyez, c'est de l'intérieur, entre présent. Donc Jésus est réincarné dans mon âme. C'est, vous savez ce qu'elle fait l'âme ? L'âme, elle donne la vie à mon corps. Donc si tu dois songer, c'est la contradiction du Christ qui fait vivre mon corps. C'est extraordinaire. Si c'est uniquement ton âme qui fait vivre ton corps, tu finiras par te fatiguer. Tandis que si c'est cette contradiction de Jésus qui fait vivre ton corps, tu ne seras jamais fatigué. Et ça, il faut en faire l'expérience. Jamais tu ne seras fatigué. J'espère que vous comprenez, par exemple, une chose que je disais quand j'étais avec les petits pèlerins à Compostelle. Je me dis que c'est facile. Tu dois la croix. Bon, ben, très bien, il faut porter la croix. Oh, que c'est lourd. Oh, bon, alors très bien. Alors évidemment, bon, évidemment, tu as une autre réaction vis-à-vis de la croix. Il y a la croix. Bon, je ne m'approche pas trop. je ne suis pas capable de la porter. Deuxièmement, bon, Jésus dit il faut que je la porte. Je la porte. Oh, je suis écrasé. Jésus, lui, il fait deux choses. Lui, il prend la croix et il l'étreint. Il l'aime. Il en méprise l'infamie. Et il rentre dedans. De sorte que la croix rentre en lui, et c'est pas la croix qui est sur lui, c'est lui qui est dedans, la croix. La croix est à l'intérieur. Si tu as une souffrance, ne la porte pas. C'est ridicule. Le Christ l'a portée, regarde, il l'a portée. Fixe ton regard sur ton chef. La croix, il ne faut pas que tu la portes. Il faut que tu la méprises. Mais il faut que tu l'aimes. Et à ce moment-là, cette croix, au lieu que ça va, si vous voulez savoir si vous portez mal une croix, c'est si vous avez le murmure. Je n'y arriverai jamais, c'est trop dur ici, ah mon Dieu, c'est effrayant, c'est tragique, dramatique, ma vie finit en malheur. Et c'est interminable, comme la révolte de Lucifer, c'est interminable. Et plus c'est noir, mieux c'est, tu sais. Alors, on voit le démon partout, tout ça. Non, pas du tout. Méprise ça. Méprise-le profondément. C'est le permettre des novices de l'Erins qui me disent ça. Méprise ça, mais alors profondément. C'est extérieur. Mais il faut que tu rentres dedans. Et il faut que ça rentre. À ce moment-là, la croix, au lieu que tu la portes, elle est, tu es transformé. Et dis-toi bien qu'à partir du moment où la croix est rentrée en toi, par amour, à ce moment-là, tu es transformé en croix. Tu ne portes pas la croix. La croix, c'est toi. C'est ce que dit Jésus. Je suis la porte. La croix, vous savez, c'est la porte. Quand il dit « je suis la porte », c'est un petit jeu de mots araméen, hein. Je suis la porte. Je suis la porte. C'est la croix. Je suis la porte. Je suis. La croix, c'est moi. Ou bien je porte la croix, et c'est très dur à porter, ou bien je suis, vous voyez, la transubstantiation qui est là, qui fait tous les sacrements. La croix, c'est moi. Je suis transformé en plaie. Et dès que vous voyez que vous avez quelque chose, que ça va mal, faites cette simple prière qui correspond à la vérité si vous vivez des sacrements. Ce n'est pas du tout une technique psychologique, parce que les gens qui le font par technique psychologique, ça ne marchera pas. Pas une méthode. C'est une réalité qu'opère le Christ. Vous êtes transformé en croix, je suis transformé en plaie, parce que le seul qui permet à une souffrance de devenir substantielle, c'est lui.